podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement ?
Oui.
Merci beaucoup d'être là, si nombreux, à cette table ronde qui a été intitulée « Les faits divers ont-ils un genre ?» Quatre autrices de podcasts formidables y participent. Je vais commencer, bien sûr, par vous les présenter. Anne-Cécile Genre, à droite, à qui l'on doit un podcast intitulé « Shame on you », qui est un retour 10 ans après sur l'affaire DSK, podcast dont on a pu entendre le premier épisode en exclusivité tout à l'heure, et la suite va bientôt être diffusée. Ce sont deux journalistes qui étaient à New York au moment de l'affaire DSK et qui travaillaient pour la télévision et qui se demandent 10 ans plus tard si elles auraient raconté cette histoire autrement. Juliette Proutot, à ma droite, autrice du podcast « Femmes coupables », qui est un podcast de la RTBF, qui se penche, qui raconte 8 procès, 8 affaires criminelles, 8 femmes coupables, voilà, sur, disponible, je l'ai déjà dit, sur la RTBF. À ma gauche, Caroline Nogueras, autrice du podcast intitulé « Homicide », ça s'écrit en deux mots, il y a un jeu de mots, parce que ce sont des drames familiaux, donc qui se passent à la maison pour la plupart. C'est un podcast bababam, podcast fleuve, combien d'épisodes ? Plus de 200. Et Claudia Prolongeau, enfin, qui est l'autrice d'un podcast intitulé « Crime Story » du journal Le Parisien, qui sont des entretiens avec le chef du service police-justice du Parisien. Là aussi, des récits d'affaires criminelles, plutôt centrés sur l'enquête, sur le fonctionnement de l'enquête criminelle. Bonjour à toutes les quatre, d'abord.
Bonjour Dorothée. Bonjour.
Je me présente aussi, allez-y, on peut. Moi je m'appelle Dorothée Barba, je suis journaliste à France Inter et consommatrice assidue de ces quatre podcasts. Je voudrais commencer par quelques chiffres, des statistiques éloquentes. 96% des personnes incarcérées en France sont des hommes. 85% des responsables de violences physiques sont des hommes. 97% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Les chiffres sont têtus. Le genre, assurément, n'est pas un détail lorsqu'on parle de faits divers. Et si les faits divers méritent d'être racontés, d'être mis en lumière, c'est pas seulement pour le plaisir de raconter des histoires sordides, c'est aussi pour éclairer des faits de société. C'est à ce sens que cette question du genre se pose autour du fait divers. Je voudrais qu'on commence d'emblée, parce qu'on va entendre évidemment des extraits des quatre podcasts ici présents. Je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet tout de suite, si ça vous convient, en écoutant un premier extrait, le podcast d'Anne-Cécile, qui s'appelle Shame on You. Alors, je le disais, Anne-Cécile était journaliste à New York à l'époque de l'affaire DSK. Elle se penche avec sa collègue Marine Pradel, qui était aussi journaliste pour la télé, sur ces rushs, donc ces images qui n'ont pas forcément été toutes diffusées, des images avant montage. Et donc là, on est au moment où DSK, la fameuse image que tout le monde a vue, DSK sort de sa voiture, elles examinent leur rush.
Dominique Strauss-Kahn sort de sa voiture noire.
Avec Anne Sinclair, qui lui prend le bras.
Et on commence à les entendre. Shame on you. Honte à vous.
C'est beau. C'est beau ce moment, je trouve. Parce que vraiment, en fait, on l'a pas vu sur les images à quel point ça a été... Elles avaient hyper bien préparé leur truc.
Le 6 juin 2011, elles le crient devant nos caméras. Elles nous mettent le nez dedans. Cette agression, ça n'est pas un cas isolé. C'est systémique.
Je me souviens d'avoir été assez étonnée de me dire « Ah, c'est super !» Enfin, d'avoir trouvé ça génial. Et puis de m'être arrêtée là, quoi. La personne de DSK est tellement énorme que ça écrase tout. Et qu'à ce moment-là, non, l'urgence journalistique, enfin pour moi, elle est d'avoir une place dans la salle d'audience pour pouvoir voir ce qui s'y passe et parler de lui. Parce qu'en fait, en vrai, on ne parle que de lui. Donc oui, non, a posteriori, je me dis que là, je me suis un petit peu plantée. Le sujet, il n'était pas là. Est-ce que ce fait divers ce juicy, quoi, juteux, on dirait en français. Est-ce que il révèle un phénomène de société plus profond, plus grave, qu'il faut mettre en lumière? En vrai, c'est ça notre travail.
Voilà, cette image très forte des femmes de chambre, tout en tenue professionnelle, sur le trottoir, parquées derrière une barrière, parce qu'elles étaient très nombreuses, et qui crient « shame on you ». Il y a un travail absolument fascinant d'autocritique que vous faites, Anne-Cécile Genre, dans ce podcast. Vous vous dites aujourd'hui, ces femmes de chambre, elles s'adressaient aussi à nous. Nous, journalistes, honte à nous d'avoir mal raconté cette histoire, c'est ça ?
Oui, et puis juste avant, dans le podcast, parce qu'on avait oublié, nous, ce moment, on a rouvert notre dossier de l'affaire DSK en se disant, quand même, c'était avant MeToo, aujourd'hui, on pourrait raconter cette histoire autrement. Et dès le début, on s'est dit, oh là là, on est nuls, on s'est pas intéressé à la victime, les femmes de chambre, etc. Et puis, en fait, on se rend compte que si, on les avait vues, elles étaient venues sous nos caméras. Et même,
vous les interviewez même.
Et on les interview et elles nous racontent à quel point c'est systémique. Genre, les trois qu'on met dans l'extrait sont des femmes qui ont été violées sur leur lieu de travail. Et évidemment, ça, on ne l'a pas diffusé. Peut-être l'image juste générale de toutes ces femmes en uniforme, le point levé, est allée dans la presse, pas vraiment dans les JT d'ailleurs, mais les interviews, alors, personne, elles n'ont pas été jusqu'au diffuseur. Quoi.
Voilà, et elles vous racontent à ce moment-là, dans ces rushs, qu'elles réclament depuis longtemps d'être deux par chambre pour faire les chambres, parce que ça arrive souvent. Elles racontent aussi qu'il y a un dispositif dans chaque palace new-yorkais, parce que ça arrive tout le temps, et qu'on sait exactement ce qu'il faut faire quand une femme de chambre accuse un client de viol. Tout ça, on ne l'a pas raconté à l'époque.
En tout cas, moi je ne l'ai jamais entendu. Et ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression, 10 ans plus tard, de ne pas l'avoir entendu non plus. C'est-à-dire que j'étais moi-même formatée pour vouloir un certain type d'information, pour vouloir raconter l'histoire d'une certaine façon. En l'occurrence, cet homme très puissant qui devait être notre candidat à la présidentielle et qui tombe, et il faut trouver plein d'explications autour de ça. Et on n'était pas du tout à l'écoute des victimes et du phénomène de société derrière, en fait.
Vous dites aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est que vous n'avez pas pensé à filmer l'entrée de service à l'époque. Pourquoi oui, ça aurait été important de la filmer?
Parce que l'épisode commence au Sofitel, Marine Pradel et moi, on était vraiment les deux premières personnes devant le Sofitel, au point qu'on est sur les images de toutes les autres chaînes, en fait, parce qu'on était là depuis longtemps, donc on avait nos caméras devant et tout. Et en fait, on filme l'image qu'on a du Sofitel, donc c'est la grande porte dorée avec des taxis qui passent devant. Et on ne s'est même pas demandé si on pouvait aller demander au personnel de service, genre comment ils le vivent, est-ce que c'est courant, etc. Et il se trouve que, petit spoiler, mais ma co-autrice était à New York la semaine dernière et elle est vérifiée. Il y a une entrée de service. Elle y a rencontré plein de gens. Et voilà. Et ça, ce sera peut-être dans la toute fin du podcast.
Voilà. L'affaire DSK, évidemment, est énorme parce que DSK était le patron du FMI, parce qu'on le pressentait pour l'Élysée. Mais c'est pas seulement, avec tous les guillemets du monde, c'est pas seulement une affaire de viol. C'est aussi une affaire qui raconte la domination des hommes sur les femmes, en l'occurrence des clients de ce palace sur les femmes de chambre. Est-ce qu'on n'a pas la place, finalement, médiatiquement, de raconter aussi bien le fait divers que ce qu'il raconte de la société? Est-ce que c'est une histoire de format, de temps que les médias accordent à ces affaires-là?
Moi, je pense que le monde a changé quand même après 2017. C'est progressif et c'est en train de changer parce que c'est encore en cours ce qui s'est passé. Mais le fait qu'aujourd'hui on puisse accuser un homme puissant sans avoir peur de passer pour une menteuse, sans se prendre tout ce qu'il y a eu en 2011 de rumeurs, en fait, au sujet de cette victime qui a eu un courage fou d'oser parler. Voilà, aujourd'hui, ça n'a plus la même place, c'est ça que je veux dire. C'est que du coup, effectivement, on irait beaucoup plus enquêter sur les victimes, sur, je sais pas, le contexte, en l'occurrence, ce job de femme de chambre et tout ce qu'il implique de risque. Enfin, et non, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de place, en tout cas.
Ça me conduit à une question pour Juliette Proutot. Est-ce que vous auriez pu faire proposer ce podcast sur des femmes coupables avant MeToo, à votre avis?
Alors, je crois, paradoxalement, je pense que oui, parce que la femme coupable a toujours... Il y a quelque chose de mystique, de mythique. Les figures archétypales ont toujours existé. Il y a déjà, depuis que la... depuis que les médias s'y intéressent, depuis qu'on parle de faits divers, qu'il y a des chroniques judiciaires, la question des femmes qui commettent des crimes, surtout parce qu'elles sont rares, ça a toujours intéressé. Donc ouais, je pense que ça aurait pu fonctionner avant MeToo.
Ça a d'autant plus d'envergure de le faire après. Plus d'intérêt, en tout cas.
Bah en tout cas, ça permet de... le fait est qu'on commence tout juste à s'intéresser à la façon dont les femmes sont appréhendées par la justice en tant que victimes. Et c'est parce que cette petite porte est en train de s'entrouvrir légèrement que moi, j'ai choisi de regarder en fait celle qui était vraiment... je veux dire, celle qu'on ne regardait pas beaucoup, et donc qui faisait partie des rares à être, à avoir été condamnée ou à être jugée.
On va écouter un extrait de ce podcast Femmes Coupables. Je voudrais vous prévenir un peu en amont que c'est un petit peu dur, cet extrait, voilà, mais ça illustre bien, me semble-t-il, le travail de Juliette. C'est un extrait de l'épisode 8 consacré à Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, tueur en série que les médias surnommèrent l'ogre des Ardennes. On écoute.
Le 22 juin 2004, en moins de 30 minutes, Monique Olivier avoue non pas un, mais 6 meurtres. À la fin de la journée, elle en confessera 9. Fourniret est convoqué dans la foulée. Il confirme les aveux de sa femme, dont il dira d'ailleurs
« Une des qualités de mon épouse, c'est qu'elle ne triche pas. »
Ce qui compte pour Fourniret à ce moment-là, c'est que tout le monde sache que le patron, c'était et ça reste lui. Et certainement pas sa femme. Il disait d'elle
« Elle avait le cerveau d'une poule lobotomisée. »
L'idée qu'elle ait pu être d'une intelligence égale ou supérieure à lui, ça lui est insupportable. Qu'elle ait pu, elle aussi, prendre du plaisir dans la commission des enlèvements, des viols et des meurtres. Il est incapable de l'imaginer. Alors il ne dit pas que c'est grâce à elle qu'il parvenait à kidnapper ses victimes. Il ne dit pas que c'est elle qui a immobilisé certaines gamines pour lui permettre de les tuer. Il ne dit pas qu'elle a parfois procédé à des toilettes intimes juste avant les viols, ni qu'il lui demandait de vérifier leur virginité. Il ne dit pas non plus qu'il rejouait les viols dans leur vie sexuelle. Et ça arrange bien Monique Olivier, dont la défense consistera à se positionner systématiquement en tant qu'idiote, en tant que victime de son mari. Elle le laisse prendre la lumière et elle se cache derrière la personnalité complètement mégalo de Michel Fourniret. Et pourtant, la question de la sexualité de Monique Olivier, de ses fantasmes, eh bien, elle est fondamentale quand on essaye de comprendre ses motivations criminelles.
Voilà, Monique Olivier laisse Fourniret prendre la lumière. Elle joue volontairement les idiotes, c'est ce que vous dites. Est-ce que cette ligne-là est facilitée, à votre avis, par le fait d'être une femme ?
Bah, je pense que dans ce rôle-là, pour le coup, tout le monde l'attendait, la justice, les policiers, les voisins, tout le monde s'attendait à avoir la femme soumise, la femme victime, un petit peu comme, plutôt comme Michel Martin, qui est la femme de Dutroux, dans un autre genre de femme d'eux. Et c'est vrai que, et donc c'était quelque chose, une posture qui était assez facile à tenir pour elle. C'était ce qu'on attendait un peu d'elle, c'était ce que Fourniret surtout attendait lui aussi très fort d'elle. Et donc oui, ça a été, c'était l'évidence.
La suite a prouvé, peut-être qu'on peut le rappeler, que c'était pas du tout une idiote.
Non, du tout. Ce qui est assez, enfin parmi toutes les choses qui sont assez intéressantes avec Monique Olivier, il y a le fait que on a fait pendant le procès, il y a eu des tests de QI qui ont été faits. Alors les tests de QI, il y a vraiment faut y aller avec précaution et à prendre et acheter. Mais le fait est qu'elle avait un QI qui était très très important. Donc les tests ont été faits plusieurs fois parce que les médecins, les psychologues, ils en revenaient pas trop que cette nana qui était tant dénigrée, qui se dénigrait tant, puisse avoir un QI aussi important. Et ça, Fourniret, il a détesté qu'on mette en avant l'intelligence de sa femme. Et ça a fait basculer un petit peu où tout d'un coup on s'est dit ah mais donc si elle n'est pas victime, c'est forcément qu'elle est que c'est elle la méchante, en fait, que la vraie méchante c'est elle.
Alors justement, vous parlez de victime, ce qui m'a frappé en écoutant votre podcast, c'est ce balancier permanent entre excuser ces femmes coupables ou les accabler. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette volonté, évidemment, d'en raconter plus que ce qu'on a su à l'époque. Je pense à l'épisode consacré aux époux Bac. Donc, c'est une jeune femme de 25 ans qui était enceinte de son cinquième enfant et qui a été condamnée pour mauvais traitement suite à la mort de sa fille, qui avait moins d'un an, dans mes souvenirs. Voilà, pour mauvais traitement, parce que vraiment... Donc c'est le procès de la contraception, c'est le titre de l'épisode. Et vraiment, tout l'épisode consiste à nous expliquer à quel point cette femme a souffert de son époque, a souffert de l'absence de contraception. Est-ce que c'était votre priorité, justement, de... Voilà, encore une fois, soit de les accabler, soit de les excuser ?
Bah, je pense qu'en fait, c'était intéressant de montrer les deux, parce que dans la criminalité féminine, si on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a à la fois des femmes qui ont, c'est-à-dire qui se sont appropriées leur violence, leur propre perversion comme un choix propre, et il y en a d'autres qui sont devenues, qui ont été condamnées par la justice, parce que ce qu'elles avaient fait, typiquement l'avortement, c'est un très bon exemple, mais parce qu'en fait, elles ont réagi à une société misogyne et patriarcale, à quelque chose qui... c'était beaucoup lié au crime sur leur corps, en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer à la fois des femmes qui avaient subi, c'est-à-dire dont la violence, ou en tout cas dont la condamnation était liée à la façon dont elles avaient subi une situation sociale, sociologique, dans le cas de Ginette Bach, c'était effectivement un milieu très très modeste où dans les années, il n'y a pas la contraception, on fait des enfants, elle n'a pas 25 ans, elle a 6 gosses, et en fait cette femme-là, ça l'a acculée et elle n'a pas pu gérer. Et c'est pas, ça n'excuse rien, mais ça permet quand même de comprendre qu'il y a à la fois ce type-là de femmes qui ont été condamnées, et inversement des femmes comme Monique Olivier ou Inès Madani qui ont choisi la violence et la criminalité pleinement.
On va écouter à présent un extrait du podcast Homicide de Caroline Nogueras. Alors j'ai choisi un extrait de l'épisode consacré à Dominique Cotteret, qui est une femme condamnée en 2015 pour avoir tué 8 bébés à la naissance. C'est une affaire judiciaire qui avait mis en lumière la notion de néonaticide, dont on parlait peu à l'époque, et qui a marqué les esprits parce que le mari de Dominique Cotteret ne s'était pas du tout aperçu que sa femme était enceinte. On écoute un extrait.
Plus elle grossit et plus elle devient invisible. Elle est peut-être bien là, la construction mentale de Dominique Cotteret, que son entourage n'a jamais voulu regarder ni écouter. Alors que le procureur Éric Vaillant réclame 18 ans de prison à l'encontre de l'accusé, son avocat Franck Berton se lance dans une plaidoirie où le coupable n'est plus Dominique, mais le miraculé de la procédure, comme il l'appelle, Pierre-Marie Cotteret, son mari, celui qui n'a jamais voulu rien voir. Il lui en veut et le lui dit à cet homme taiseux.
La seule chose qu'il savait faire, c'était dire « Gros, fais le ménage. Gros, prépare la gamelle. Gros, viens au lit. » Pour le code pénal, vous n'y êtes pour rien. Mais au regard de la morale, de l'aide, de l'assistance, vous êtes coupable.
Voilà, gros, c'était le surnom dont le mari de Dominique Cotteret affublait sa femme. Il y a beaucoup de choses passionnantes dans cet épisode-là, Caroline Nogueras, et notamment sur, encore une fois, à quoi ça sert de raconter un fait divers. Ça sert à mettre en lumière le phénomène très complexe du néonaticide, et aussi de parler des relations avec les soignants. Et ça m'a passionnée dans cet épisode. Dominique Cotteret avait une allergie à l'égard du corps médical, et ça explique beaucoup dans cette affaire.
Dominique Cotteret, c'est une femme en effet qu'on dirait banale dans un milieu un peu populaire, comme on dit. Et c'est une femme qui est obèse depuis qu'elle est jeune. Et sa première grossesse se passe très mal. Elle en garde un très mauvais souvenir. Elle a le sentiment d'être très maltraitée par le corps médical. Et donc, sa deuxième grossesse, elle la nie. Mais finalement, son mari va s'en rendre compte au bout de 6 ou 7 mois de grossesse. Elle va aller à terme de cette deuxième grossesse. Et suite à ce deuxième accouchement qui se passe extrêmement mal, où elle se sent encore maltraitée par le corps médical, on lui dit « il faudrait peut-être un peu maigrir, Madame Cotteret, parce que ça va être dur pour les prochains ». Elle se promet que plus jamais elle n'aura d'enfant, elle n'enfantera. Sauf qu'elle est allergique à la contraception. Enfin, allergique, façon de parler, puisqu'elle n'est pas allergique, mais elle ne veut pas en entendre parler. Elle ne veut même pas retourner voir un gynécologue de sa vie. Et donc, elle va mettre au monde derrière 6 enfants, et par 6 fois, elle va les tuer. Et par 6 fois, son mari ne va se rendre compte de rien, parce que c'est une femme, alors je ne cherche pas à prendre sa défense, mais c'est une femme qu'on ne regarde pas. C'est une femme qui travaille dans le social, qui aide les personnes âgées. Et son mari, en effet, il l'appelle gros. Gros, fais ménage, gros, fais ça, etc. Alors, il va la soutenir quand on se rend compte qu'elle a tué de nombreux de ses bébés. Mais pour autant, c'est une femme qui est transparente. Elle est grosse, c'est vraiment le cas, mais elle est totalement transparente. Le seul pouvoir qu'elle a, c'est horrible, mais c'est de tuer ce qu'elle a mis au monde.
Vous venez de dire, je ne cherche pas à la défendre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans la préparation de chaque épisode ? Est-ce que vous craignez qu'on pense que vous cherchez à les défendre ?
Il y a un auditeur un jour qui m'a dit on aimerait bien avoir votre sentiment en fait quand vous écrivez. Et moi, comme je suis journaliste, j'essaye toujours de travailler à charge et à décharge, même si je refais pas l'enquête. Hein. Je travaille sur du, évidemment sur des enquêtes qui ont déjà été faites et j'appelle en général les procureurs, les avocats, voilà, pour avoir leur point de vue ou des proches. Mais j'ai beaucoup de mal à donner mon avis. Mais il est vrai que dans cette affaire, j'ai été touchée par la personnalité de cette femme. Et c'est pas pour rien que j'ai interviewé le procureur, parce que lui-même, Éric Vaillant, ça a complètement transformé sa carrière derrière, parce que, en fait, elle avait... Alors, il faut pas mal prendre ce que je dis, mais elle avait des circonstances atténuantes. C'était une femme qui, depuis qu'elle était petite, n'était pas regardée, était rejetée. C'était une enfant qui devait pas naître. Et moi, ce que j'aime dans Homicide, ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe qui est là en partie devant, d'ailleurs je les salue, c'est que on essaye de raconter le fait divers par le prisme de la société, et on essaye de raconter comment un personnage va basculer du mauvais côté. Et je pense que Dominique Cottret, c'est exactement ça. Elle a basculé et elle n'arrive plus à s'en sortir. Et elle a basculé du mauvais côté parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas attrapé d'aide autour d'elle.
Comment se pose, d'après vous, la question du genre sur cette affaire-là en particulier? Qu'est-ce que ça change, pour le dire simplement, que ce soit une femme mise en cause?
Bah, déjà, vous l'avez dit, Dorothée, tout à l'heure, il y a très peu de femmes qui sont mises en cause. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les crimes de femmes sont des crimes domestiques. Une femme va rarement tuer à l'extérieur de sa famille. Donc une femme, elle peut tuer son enfant, puisque ça lui appartient. Elle peut éventuellement, comme des faits divers tragiques, aller tuer son mari qui la tabasse, etc. Mais c'est extrêmement rare, en revanche, de trouver des crimes gratuits de femmes à l'extérieur du domaine familial.
Peut-être je peux poser, avant qu'on en vienne au quatrième extrait, la question aux autres intervenantes. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est une question qu'on se pose forcément? Parce qu'après tout, je pourrais vous répondre, on ne se la pose pas quand c'est un homme. Qu'est-ce que ça change que l'accusée soit une femme, Juliette Proto?
Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, pour elle, pour...
Pour la façon dont on raconte cette histoire.
Je pense que ça change nécessairement parce que la justice, qui n'est pas une institution hermétique à ce qui se passe ailleurs dans la société, du coup, la justice a un biais genré dans la façon dont elle... La justice, comme les médias, mais la justice dans la façon dont elle appréhende les femmes qui se présentent devant elle, à la fois en tant que victime et aussi en tant qu'inculpée ou en tant qu'accusée. Et du coup, nécessairement, oui, la justice, il y a un biais de genre. Et donc, je crois que ce serait hypocrite de d'ailleurs, si vous allez un jour au tribunal, vous y passez une semaine, vous voyez passer en correctionnel, j'allais dire, vous allez voir passer 10 prévenus par jour, et ben vous vous rappellerez vous allez voir peut-être passer 2 femmes en une semaine, et vous sentez que c'est différent. Et moi, je me rappelle la première fois où j'ai vu au tribunal une femme, c'était pour un délit un peu, je sais plus ce que c'était, mais c'est rien de très important. Mais je me suis dit, ça m'a fait quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on se rend compte que la femme, quand elle se retrouve à cette place-là, elle franchit 2 limites. Il y a une limite juridique, une limite légale et une limite sociale. Et ça, on l'a pas quand on voit un homme. Voilà.
C'est la différence que vous faites souvent entre le droit et la justice. La justice, c'est pas le droit. C'est ça?
Non. Non, la justice, c'est pas le droit. Et c'est surtout que le droit. Mais c'est surtout que le droit, c'est pas la justice. C'est-à-dire qu'on a tous. Et là, je suis ni philosophe, ni sociologue, mais le droit, ce sont des règles de loi qui sont érigées par une société. Jusqu'à présent, c'était par une société d'hommes. Et du coup, la justice derrière, ça peut ne rien avoir du tout à faire avec le droit. C'est 2 choses qui sont... Le droit essaye, dans la mesure du possible, essaye de se rapprocher de l'idéal de justice, mais ça reste un idéal, et le droit, c'est que des lois.
On va écouter un extrait du quatrième podcast qui s'appelle Crime Story, podcast du journal Le Parisien. J'ai voulu prendre un extrait de l'épisode consacré à Edwige Alessandri. Alors là aussi, je rappelle de qui il s'agit. Edwige Alessandri, elle a été condamnée pour avoir tué son mari, Richard, dans le Vaucluse en 2000. Richard a été abattu d'un coup de fusil de chasse dans son sommeil. Edwige appelle la police, disant qu'ils ont été cambriolés et que son mari a été tué par les cambrioleurs qui ont pris la fuite. Elle a été condamnée 3 fois aux assises, en appel et en cassation. Mais dans cette affaire, des indices n'ont pas suffisamment été creusés. Vous en parlez avec donc Damien Delceni, qui est journaliste au Parisien.
Donc c'est vraiment assez troublant parce qu'on trouve des mégots, on trouve de l'ADN, on trouve une trace de chaussure. Tout ça nous ramène sur des gens, sur des individus qui sont déjà connus en plus pour des vols, pour des cambriolages. Mais malgré tout, cette piste-là, elle sera de nouveau abandonnée au moment de la procédure de révision. Et ces gens-là ne seront jamais inquiétés. Pour la justice et pour les enquêteurs, Edwige Alessandri reste et restera la coupable de ce meurtre.
Peut-être qu'il y avait quelque chose aussi dans la personnalité d'Edwige Alessandri qui agaçait un petit peu les gendarmes.
Oui, il y a eu tout de suite un problème de sincérité, voilà, y compris le soir des faits où ceux qui sont intervenus ont senti quelque chose d'un peu étrange. Ils ont toujours senti qu'elle cachait quelque chose. Et puis, elle avait un côté, Edwige Alessandri, très sûre d'elle, voire même parfois un peu cassante, un peu hautaine, qui a probablement agacé les gendarmes. Enfin, ça, ils ne devraient pas en tenir compte normalement. Qui a aussi sans doute pas mal agacé les jurés pendant les 3 procès d'assises. Ceux qui l'ont défendu, hein, d'ailleurs, ses avocats, ont aussi été confrontés à ce caractère assez trempé, alors même qu'ils étaient quand même, eux, persuadés de son innocence et qu'elle allait arriver à convaincre les gens de cette innocence. Mais effectivement, elle peut avoir un caractère qui la dessert à certains moments.
Voilà, la question qui me vient, c'est est-ce que cet agacement des gendarmes à l'égard d'Edwige Alessandri ne serait pas une forme de sexisme ?
Moi, je pense que si.
Plus près.
Ah, plus près. Évidemment, il y a plein d'affaires où la personnalité des mises en cause, elle joue presque même à chaque fois un procès d'assises. D'ailleurs, c'est énoncé au début des procès, on dit qu'on juge les personnes sur leurs actes, mais aussi sur leur personnalité. Dans le cas d'Edwige Alessandri, très probablement que le fait qu'elle prenne un peu tout le monde de haut, qu'elle essaye... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, quand elle appelle les gendarmes qu'ils viennent et qu'ils lui posent des questions assez banales, finalement, sur sa relation avec son mari, elle dit « ça se passait hyper bien, on s'adorait, c'était super et tout ». Et avec une enquête probablement pas très poussée, ils se rendent compte assez vite qu'en fait ça se passait pas hyper bien, que lui il avait des maîtresses en veux-tu en voilà, qu'il se disputait beaucoup. Mais à partir de ce moment-là, il décide que comme elle a menti, elle se moque d'eux et que quelque part, voilà, elle essaye de les embobiner et donc elle est coupable. Ils prennent pas du tout en compte le fait que peut-être aussi, tout simplement, c'est hyper humiliant quand on fait l'objet d'une enquête, d'être obligé de déballer toute sa vie privée et que des gens qu'on connaît pas et qui viennent nous interroger sur nos relations intimes, bah peut-être qu'on va avoir tendance à un peu enjoliver les choses. Et donc si elle est elle est très clairement victime de sexisme, elle affirme sans doute un peu trop ce qu'elle pense et elle est agaçante pour ça.
Là encore, le sexisme, il est aussi bien dans la procédure de l'enquête que dans le récit médiatique qu'en effet. J'ai vu un documentaire sur France 2, je crois, consacré à cette affaire Alessandri. Le titre du documentaire, c'était « L'assassin était une femme ». C'est sidérant, ce titre, non ?
Ouais. Oui. Je crois que, si je ne me trompe pas, dans ce documentaire, en fait, il y a 2 affaires qui sont traitées. Il y en a une deuxième avec une femme qui a empoisonné son mari, ce qui est c'est-à-dire qu'il y a quand même des crimes qui sont assez genrés. On parlait des néonaticides. Je crois que c'est quasiment exclusivement les mères qui tuent les nourrissons. Les femmes, souvent, quand elles tuent leur mari, elles les empoisonnent. Et je pense que c'est essentiellement pour des questions de force physique. Mais effectivement, ce documentaire-là, il s'attache à l'idée que l'assassin est une femme. C'est sidérant comme titre, mais ça illustre bien les statistiques qui étaient données au début. Le fait est que c'est pas fréquent.
Voilà, le fait est que c'est pas fréquent. Dans l'enquête, Alessandri, c'est quoi votre sentiment personnel sur cette affaire? Alors, parce que quand même, les traces de pas, on les met de côté, c'est pas grave. Le mégot, il y a de l'ADN dessus, mais bon, peu importe. Elle est coupable à 3 reprises. Enfin, ça donne un peu envie de hurler, cette histoire, non?
Oui. Bah, donc moi je n'en sais rien, je n'ai pas fait l'enquête et je ne suis pas en contact avec elle et voilà, pardon. Donc je sais pas si elle est coupable ou pas effectivement. Ce qui était intéressant de mon point de vue, c'était davantage justement de raconter cette enquête que de finalement de donner le verdict. Elle est coupable, elle a été condamnée pour ça. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Est-ce qu'elle l'a pas vraiment fait? Elle dit que non. Voilà, moi, j'ai pas, moi je ne sais pas.
Ça pose la question du choix des sujets. Quand on anime, ouais, comme vous quatre, un podcast consacré aux faits divers, comment choisit-on les histoires ? Vous me disiez en préparant cette séance, Claudia, qu'il faut tâcher de se renouveler. On ne peut pas évidemment raconter la même histoire chaque semaine dans Crime Story. Du coup, les féminicides, on ne peut pas en mettre toutes les semaines. Pourtant, il y en a beaucoup. Ça, c'est un biais, évidemment, un biais journalistique dans l'approche du fait divers.
Effectivement, il y a aussi le fait que je pense que nous, on a dû faire une quarantaine d'épisodes pour l'instant. Franchement, il y en a au moins 5 ou 6 où les femmes, où c'est une femme qui est coupable, ou en tout cas qui est condamnée, comme on vient de le dire. Et ça, clairement, c'est surreprésenté par rapport au nombre de femmes qui sont mises en cause dans des affaires criminelles. Effectivement, moi, mon souci, c'est de raconter des enquêtes qui sont différentes. Le plus possible avec des inattendus, donc avec des choses qu'on n'a pas vues la semaine d'avant. Et donc, je ne peux pas faire des féminicides toutes les semaines parce que malheureusement, les féminicides, c'est quand même toujours un peu la même chose. Et on est même assez surpris que quand une femme disparaît et que justement, elle était en instance de divorce avec son mari et que même parfois, elle avait porté plainte pour violence conjugale 6 mois avant, et ben, ça met tant de temps à aboutir à la mise en examen du mari ou de l'ex-mari.
Juliette Proutot.
Pardon, je voulais juste réagir sur la question de est-ce qu'il y a des crimes de femmes ou pas. Et je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de... Alors, il y a des clichés, il y a des grandes figures criminelles qui, des fois, correspondent à une réalité statistique. Et des fois, ce n'est pas le cas. Par exemple, sur la question des empoisonnements, ça fait... donc là, on est en 2023, ça fait plus d'un siècle et quelques que parmi tous les crimes d'empoisonnement... Il n'y a pas plus de femmes aujourd'hui, par exemple, si vous regardez sur les 50 dernières années, il n'y a pas plus de femmes, ou sur les 100 dernières années, il n'y a pas plus de femmes qui ont empoisonné, qui ont été c'est-à-dire condamnées pour empoisonnement que d'hommes. Et sur la question de l'infanticide, je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est que il faut distinguer, je crois, le néonaticide, qui est le fait donc de tuer tout de suite à la naissance, et donc là, ça semble un peu évident. Pourquoi est-ce que c'est que des femmes? C'est parce que souvent, c'est des femmes qui sont seules. Et du coup, elles accouchent toutes seules. Et donc, elles sont les seules, entre guillemets, à pouvoir tuer un nouveau-né dans les 2 heures qui suivent la naissance. Mais par contre, sur les questions d'infanticide, c'est-à-dire ce qui est le fait de tuer un enfant sur le reste de sa vie d'enfant jusqu'à ses, je sais pas, ses 13 ou 15 ans, là, à ce moment-là, on se retrouve de nouveau à une parité entre... Il y a autant, en fait, de pères infanticides que de mères infanticides, il y a même un peu plus de pères infanticides, et ensuite c'est des couples infanticides. Mais du coup, je trouve qu'il faut aller, avec un peu de, faut faire. J'ai l'impression en fait que il faut déconstruire un petit peu aussi ces figures-là, parce que derrière, c'est aussi des figures dans lesquelles on enferme rapidement les femmes qui vont commettre des crimes, et pour le coup, qui sont pas forcément des victimes, mais qui sont juste, qui sont donc des femmes qui ont choisi la violence ou la cruauté ou la perversion, et on va leur demander de rentrer dans les quatre grandes figures qu'on a imaginées, c'est-à-dire effectivement l'empoisonneuse, la traîtresse, le machin. Et moi, c'est ce que je trouvais intéressant en fait avec les femmes coupables, c'est qu'en fait, elles n'ont pas le droit à une sorte de complexité et de subtilité dans ce qu'elles sont et dans leur choix, dans le pourquoi est-ce qu'elles ont choisi la violence.
Oui, c'est cette idée de faire rentrer la femme dans une case. Voilà, de lui nier une complexité, ça marche aussi, si je puis dire, pour les victimes. Anne-Cécile Genre, est-ce qu'il y a eu cette question qui s'est posée pour vous au moment de l'affaire DSK en particulier, ou d'autres des sujets que vous abordez, cette question éternelle de la bonne victime ou de la mauvaise victime? Comment est-ce qu'on raconte une victime? Comment est-ce qu'on s'intéresse à une victime médiatiquement?
À l'époque, on s'y est vraiment pas beaucoup intéressé, en tout cas. Et nous, maintenant qu'on s'y intéresse, on trouve ça absolument passionnant et on a envie de raconter toute sa vie. Mais le principe, il me semble, de la société, en mettant des gros guillemets, mais jusqu'à MeToo, c'était globalement que, une victime qui parlait toute seule. On était presque sûr qu'elle allait se faire accuser de menteuse, en fait. Enfin, ça me paraît. Dites-moi si je dis des bêtises, mais c'est tout le principe, quoi. C'est que aujourd'hui, on traite différemment des témoignages comme ça. On sait qu'il faut le faire avec toute une méthode que je ne vais pas détailler, mais avec notamment un phénomène de groupe, quoi. Si c'est 12 femmes, c'est plus difficile de dire qu'elles affabulent. Et voilà, tout plein de subtilités comme ça sur l'écoute, sur la présence, enfin même sur le moment où on leur pose des questions, le type de questions qu'on leur pose, etc. Ça, pareil, ça a été très 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 mal fait, même par la justice américaine qui a pourtant un temps d'avance hein, sur le traitement des crimes sexuels. Il y a eu plein d'erreurs.
Est-ce que vous avez en tête une question que vous auriez posée à Nafis Atou Diallo à l'époque et que vous regrettez de ne pas avoir posée, ou alors une information sur la victime, quelque chose qu'on n'a pas dit d'elle et qu'il aurait fallu à tout prix dire?
C'est le courage que ça représente d'avoir fait ce qu'elle a fait. J'ai l'impression qu'on est un peu submergé, et c'est très sain aujourd'hui, de cas de... je sais pas trouver un autre mot que MeToo, je trouve ça très moche, mais de témoignages groupés de victimes qui accusent des hommes d'agression sexuelle. La plupart, genre la majorité, sont des cas qui datent d'années auparavant, voire de dizaines d'années auparavant, et il faut qu'elles soient groupées, etc., pour avoir le courage de le faire. Là, on parle d'une personne qui était en situation de précarité, où elle voit bien quand même, c'est une suite présidentielle, hein, donc elle ne sait pas forcément que c'est un candidat à la présidentielle, mais elle sait que c'est un homme puissant. On parle de quelqu'un qui, un quart d'heure après le viol, va chercher la police. Donc c'est un courage qui... Enfin voilà, moi la grande question que j'ai, c'est d'où lui est venu ce courage. Et j'ai des réponses, mais je ne veux pas vous les dire. Mais voilà, il y a c'est tout l'intérêt d'écouter notre podcast. Mais c'est comment on peut en être là, enfin avoir cette force-là. Parce que ok, c'est une victime, mais c'est une femme hyper forte d'avoir fait ce qu'elle a fait. Elle voulait pas perdre son job et elle l'a répété plein de fois à la police. Elle veut pas perdre cet emploi, et en même temps il vient lui arriver ce truc, il faut faire quelque chose.
C'est la première chose qu'elle dit, hein, d'ailleurs, quand elle révèle les faits, je veux pas perdre mon boulot. Caroline Nogueras, pour revenir à cette question du choix des sujets, vous qui avez raconté tant d'histoires criminelles dans Homicide, comment est-ce que vous choisissez vos sujets?
Je choisis les sujets, il faut qu'il y ait une résonance très forte au sein de l'opinion publique, et c'est souvent des histoires qui ont fait débat, soit qui ont fait jurisprudence, soit qui ont changé les mentalités. Alors évidemment, comme on en fait de plus en plus, et il y en aura encore de plus en plus des homicides, ça va être difficile à chaque fois de trouver un prisme et prendre de la hauteur par rapport aux faits divers. Mais de manière générale, moi, je vais jamais dans le côté sordide. J'aime pas trop le fait divers. C'est ça qui est dingue. Mais j'adore ce que ça raconte, en fait. Et en effet, à chaque fois, quand on creuse une histoire, on se rend compte, en tout cas dans celle que je traite, c'est toujours des histoires qui ont bouleversé les choses derrière. Soit ça a fait jurisprudence, l'affaire d'Outreau, évidemment, je l'ai traité parce que je pouvais pas passer à côté, parce qu'évidemment, c'est une erreur judiciaire, mais pas que, il y a beaucoup de choses derrière. Évidemment, le néonaticide, c'est important d'en parler parce qu'on n'en parlait pas beaucoup et qu'on a reconnu ce crime-là spécifiquement. J'ai évidemment fait des féminicides parce qu'on ne pouvait pas passer à côté. J'ai également fait l'affaire Fiona, de la petite Fiona, parce que ça a fait un débat énorme. Et puis là, c'est l'histoire d'un couple qui devient tueur. Et puis voilà, à chaque fois, j'essaye dans le dernier épisode d'inviter un proche de l'affaire, soit quelqu'un qui était dans le procès à titre d'avocat, de magistrat, ou d'enquêteur, soit un proche et qui va nous donner son angle, son point de vue. Donc voilà, et on essaye d'ouvrir le débat à chaque fois dans le quatrième épisode.
Voilà, l'idée c'est toujours d'élargir la focale, toujours, de raconter plus qu'une simple histoire, mais ça pose aussi la question de ce que viennent chercher les gens qui vous écoutent. Est-ce qu'à votre avis ils viennent pour ça, pour le fait de société, ou est-ce qu'ils viennent pour le sordide, pour le sang, les larmes? Il y a sans doute un décalage entre votre ambition et ce que viennent chercher les gens.
C'est vrai, ouais, c'est une très bonne question. Je pense que si on cherche du sordide, on va forcément peut-être plus aller vers Ondelatte. Voilà, je sais pas s'il est dans la salle, mais évidemment, c'est pas du tout contre lui, mais nous, on essaye de faire un truc complètement, complètement différent. Et si on cherche à prendre de la hauteur par rapport à un fait divers, je pense qu'on va l'écouter Homicide. J'essaye vraiment de décortiquer l'affaire du début jusqu'au procès. Mais je pense que dans les auditeurs d'Homicide, il y a un peu de tout. Ouais.
C'est une question que vous vous posez aussi, Claudia Prolongeau, avec Crime Story.
Bah, nous, le... Ah, je suis pas assez prêt, si ça y est. Nous, c'est un podcast du Parisien. Donc, les personnes qui lisent le Parisien, alors c'est peut-être pas exactement les mêmes, ceux qui lisent et ceux qui écoutent le podcast, mais le Parisien est connu pour ses faits divers, pour les informations qu'ils ont dans cette catégorie-là. Et donc, je pense que les gens, ils viennent pour entendre une histoire et que ça va pas forcément beaucoup plus loin. Après, nous, on peut décider de raconter cette histoire, ce qu'on fait, en ajoutant des éléments, et ça c'est ce que moi je fais, qui moi me paraissent importants. Donc un exemple qui me vient, c'est que on ne manque jamais de rappeler que le crime passionnel n'est pas une qualification pénale, que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé, et que même quand Bertrand Cantat a tué Marie Trintignant à coups de poing, les unes des journaux, et notamment je crois Paris Match titré « Il s'est mis à la folie », ça n'était pas une qualification juridique à ce moment-là, et il n'y avait pas de raison que ça soit que ça passe comme ça devant une cour d'assises et voilà. Donc je pense que les gens ils viennent juste pour entendre une histoire avec une enquête, avec un peu de suspense éventuellement et avec une résolution à la fin, mais nous on a le temps justement d'expliquer un peu plus et d'apporter un peu de complexité, un peu de nuance.
Oui, moi ce que je viens chercher quand j'écoute Crime Story, c'est aussi la mécanique de l'enquête. Je trouve que c'est ça que vous racontez très bien. Ouais. Le travail des gendarmes, le travail des policiers, comment se fabrique une enquête. Ça, c'est vraiment un prisme auquel vous tenez.
Oui, ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est surtout Damien Delceni qui le raconte, déjà parce qu'il connaît mieux, mais aussi parce que c'est son rôle dans le podcast. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand une affaire finit dans Crime Story, c'est quand même que l'enquête n'est pas super bien faite dès le début, puisque ça traîne un petit peu en longueur. Et en fait, c'est ça qui est intéressant à raconter, parce que ça permet aussi de suivre les évolutions techniques qui permettent d'obtenir des résultats parfois des années après. Mais voilà, toujours en glissant un peu tous les éléments dont on a parlé, mais en mettant un peu de nuance, en expliquant comment on en arrive à ça, et en essayant de faire passer des idées et de raconter quelque chose d'un peu plus large.
Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée aussi, Juliette Proutot ? Que viennent chercher les gens qui écoutent Femmes coupables ?
Je crois pas.
Parce que quand je vous écoute en parler, je me dis, elle a un petit frisson, elle a une petite fascination pour ces affaires-là. Je sais pas ce qu'en pensent les gens autour de vous, mais il y a un truc un peu quand même, on vient gratter... Du sordide. On entend bien votre démarche à vous qui est d'interroger les rapports de domination, interroger les failles de la justice, les contradictions de la mécanique judiciaire, tout ça. Mais au final, ça reste des histoires horribles que vous racontez avec force au détail. Voilà. Est-ce que c'est une question qui vous traverse parfois, que viennent chercher les gens ? Non ?
Alors, pas tant. Après, je sais que, par contre, je me suis souvent demandé, depuis que j'ai commencé à travailler sur des questions liées à la justice, comment est-ce qu'on peut traiter la justice, le fait divers, et d'ailleurs même au-delà du fait divers, la justice en général, où a priori c'est toujours des histoires qui sont au mieux juste un peu tristes et qui au pire sont vraiment glauques et atroces. Comment est-ce qu'on peut parler de ce milieu-là, de ce que ça raconte, sans rentrer dans des détails vraiment dégueux qui effectivement attirent un certain public, et en même temps... Par exemple, je sais que sur Monique Olivier, et on en avait discuté sur le choix de l'extrait, y a un côté où moi, je me sens un peu obligée de dire ce qu'elle a fait, mais fondamentalement, je m'en fous un peu. Je trouve qu'elle, elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante dans ce qu'elle est, elle n'est pas intéressante dans ce qu'elle a fait. Ce qui est intéressant avec, en tout cas avec des femmes qui sont comme Monique Olivier, ou en tout cas ces personnages-là, ce qui est intéressant, c'est le regard qu'on porte sur elles, c'est la façon dont la justice va les appréhender. Elle, en tant que telle, et vraiment ce qu'elle a fait, moi j'aimerais beaucoup, et j'ai essayé de minimiser, c'est-à-dire au maximum, les détails que je pouvais donner sur les crimes en tant que tels, qui, je crois, fondamentalement, ne sont pas intéressants. Après, du coup, j'espère que les personnes...
Après, vous êtes un peu blindée, sans doute, sur ces sujets-là. Blindé, ça vous atteint pas?
Si, je trouve que c'est toujours. En fait, ce qui est atteint, moi, je trouve, c'est quand c'est travailler sur ces sujets pendant des années. Après, c'est qu'il y a une forme d'habitude, mais si, moi, je trouve que c'est toujours
hyper triste, c'est toujours terrible. Et j'ai pas, pour le coup, on a parlé là beaucoup des femmes qui étaient victimes et des femmes coupables qui ont été condamnées, mais qui avaient des excuses. Il y a aussi des vraies femmes coupables qui avaient pas des masses d'excuses autres que leur propre perversion, et auquel cas j'ai pas de sympathie pour elles, et j'ai pas de. C'est pour ça que c'est mieux de traiter les femmes coupables, parce qu'on a un peu moins de sympathie. Les femmes victimes, à un moment, c'était difficile. Ouais.
J'imagine. Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, tellement elle est évidente, mais voilà, nous sommes cinq femmes devant vous aujourd'hui. On parle du fait divers et du genre. Anne-Cécile, genre, j'ai fait aucune blague sur votre nom de famille. Est-ce que c'est le travail d'une femme sur un fait divers? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant, voire que vous revendiquez?
Oui, alors nous, notre podcast, en plus, on est pas juste journaliste sur le podcast, on est complètement à part entière dedans. On reprend des morceaux entiers de notre vie à New York à l'époque et depuis. Et en fait, je pense que la société entière a changé ces 10 dernières années, et que nous aussi. Et donc, il y a des épisodes de ce qu'on a vécu en tant que femme à New York il y a 10 ans, donc en 2011. Où on les a redécouverts en les, parce qu'on, donc on se raconte nos souvenirs globalement, parce que là on a entendu un extrait qui est pas, voilà, il y a d'autres moments où on est plus présente, quoi, et en fait on se rend compte qu'on a été en contact avec des prédateurs sexuels nous aussi, des choses, et voilà, avec 10 ans de recul on se rend compte que on n'avait pas fait le rapprochement en fait. Ce genre de choses, voilà. Donc c'est évidemment essentiel qu'on soit des femmes dans la façon dont on raconte l'histoire dans Shame on You, en fait, en tout cas.
Et pour vous, Caroline de Garas, est-ce que c'est essentiel que vous soyez une femme dans cette affaire-là?
Bah, moi je suis hyper contente de donner ma voix à ce fait divers et de l'incarner, et de l'écrire aussi, bien sûr, en partie. Et je pense que ce qui a marché au début sur Homicide, c'est spécifiquement parce que j'étais une femme. Excuse-moi, je suis en train de perdre ma voix.
C'est l'ironie du sort.
Oui, exactement. Et ouais, c'est spécifiquement parce que j'étais une femme. Et je pense sincèrement que dans mon écriture, j'avais une sensibilité féminine. Et j'avais une approche féminine du fait divers. Qu'on a
féminine gardé. Ou féministe?
Non, je ne suis pas féministe. Voilà, je viens de le dire. Je défends la cause des femmes, bien évidemment. Il nous est tous arrivé des choses, mais je ne me considère pas comme féministe, si vous voulez. Pour moi, féministe, c'est très compliqué. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais parce que justement, je pense que. Enfin, c'est un autre débat. Mais je pense qu'une voix féminine dans le fait divers, ça avait toute sa place. Et il y a peut-être un peu de douceur aussi dans la manière que j'ai de raconter les choses, dans la manière d'interviewer mes témoins. Voilà, donc je pense que ça a apporté quelque chose qui n'y avait pas à ce moment-là, parce que le fait que Homicide existe depuis janvier 2021.
Et vous, Claudia Prolongeau? Alors, dans votre cas, c'est une discussion entre un homme et une femme. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que pour la compréhension d'un sujet, c'est toujours facile, c'est plus facile de distinguer. C'est un truc qu'on dit beaucoup à la radio, mais les binômes, c'est plus facile quand c'est un homme ou une femme, parce qu'on distingue qui parle. C'est bête comme chou, mais voilà.
Oui.
Est-ce que ça change quelque chose que vous incarniez ce podcast-là?
Je pense que oui. Parce qu'en fait j'ai plein de biais qui sont les biais d'une femme, et il y a plein de questions que je me pose et que donc je pose à Damien, puisque c'est moi qui écris qui écrit la trame narrative du podcast et qui écrit les questions, et probablement que si j'étais pas une femme, il y a certaines questions que je me poserais pas et que je ne lui poserais pas.
Je vous pose aussi la question, Juliette, est-ce que c'est un podcast féministe?
Oui. Oui, puis non, mais non, mais et pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec le fait que même si c'était pas conscientisé, les biais qui, il y a moi en tant que femme, il y a des biais qui me définissent. C'est une façon de, enfin, je plus sois complètement à ça. Et oui, c'était. D'ailleurs, j'étais assez content. Je fais de la pub à la RTBF parce que pour le coup, ils ont pas toujours été hyper. Hyper carré sur ces questions-là en termes de production de contenu. Et là, moi, ils m'ont laissé, j'ai vraiment pu écrire ce que je voulais. Il n'y a pas eu un moment où ça a été, où cette tendance, j'ai pas dû cacher que oui, je trouvais que c'était, le sujet était féministe et que j'avais envie de l'appréhender d'une façon féministe.
Et d'ailleurs, comme Anne-Cécile Genre, vous parlez à la première personne, vous racontez que votre père était avocat, que votre intérêt pour ce sujet est né de là, du peu, très 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 peu de femmes que vous voyez dans les salles d'audience, etc. Donc c'est parler à la première personne, c'est aussi une manière d'assumer d'où l'on parle. Ça c'est un débat qui traverse beaucoup le podcast, mais est-ce qu'on doit dire d'où l'on parle? Vous deux, vous le dites beaucoup.
Alors, moi, je le dis, mais c'était pas une... J'aurais préféré, si j'avais vraiment pu faire exactement ce que je voulais, j'aurais préféré pas le dire, et j'étais pas très à l'aise avec le jeu. Après, j'entends que ça permette, que ce soit d'un point de vue narratif plus intéressant, que ça permette d'incarner quelque chose, et je comprends en termes d'efficacité narrative. Je suis pas sûre que c'eût été nécessaire, je sais pas si c'était... En tout cas, moi, c'était en termes de... C'est un peu comme si on m'avait dit tu vendras mieux ton histoire si au tout début tu mets un tout petit peu de jeu devant, entre guillemets, ça permet d'incarner quelque chose, et donc c'est comme ça que je l'ai pris, quoi.
Bon, il nous reste 10 minutes, est-ce qu'on va peut-être passer aux questions, s'il y a des questions dans la salle, on va faire... Il y a un micro ou pas pour ça? Je me suis pas renseignée. Non. Est-ce que je peux passer le mien éventuellement? Ouais. Allez, je me déplace.
Merci. Je voulais savoir, c'est pour toutes, qu'est-ce que vous pensez du décalage entre l'impunité des agresseurs? On le voit, il n'y a pas tant de carrières brisées. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe pour Stéphane Plaza, il va très bien. Et la façon dont les femmes coupables, dites coupables, sont traitées, je vous renvoie aux travaux de Gwenola Ricordo, qui montrent bien que les peines qu'elles ont pour des crimes similaires sont sans doute plus importants, et pire, le traitement en prison de ces femmes va être encore plus dur que... Comme si on disait, c'est une femme, vraiment, c'est pas possible de se comporter comme ça en tant que femme, alors qu'un homme, c'est des mecs, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Qui veut répondre? Caroline.
Alors, spécifiquement, j'ai tourné en prison, parce qu'à côté, je travaille pour la télé, et j'ai vu des femmes en prison, incestueuses, qui étaient condamnées pour inceste, notamment, que j'ai pu interviewer. Et je n'ai pas vu de traitement plus malveillant à l'égard des femmes. Au contraire, j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt mieux traitées que les hommes. Donc, ce n'est pas mon ressenti. Après, là où je vous rejoins, en effet, on met beaucoup de temps à accepter que l'homme a fait quelque chose de mal. Plaza, en effet, c'est une affaire actuelle. Il est protégé, comme a longtemps été protégé PPDA. Et je rejoins ce que disait ma collègue tout à l'heure. Il faut toujours que nous, on soit en force, hein, à plusieurs, pour qu'on reconnaisse le crime qu'un homme a fait sur une femme. Mais en tout cas, sur la partie, le traitement, la condamnation, etc., là, je m'élève vraiment en faux, parce que pour l'avoir vu de mes propres yeux, elles sont pas si maltraitées en prison.
Après, juste sur la question du traitement, du traitement carcéral, il y a des problématiques en fait qui sont pas, alors c'est pas forcément qui deviennent politiques, mais qui sont juste statistiques. Le problème, c'est que vu qu'il y a moins de femmes qui sont en prison, il y a moins d'endroits, il y a une et demie prison pour femmes en France aujourd'hui, et ça change beaucoup parce que par exemple, ça oblige les femmes soit à être très éloignées de là où elles sont, si elles doivent aller à Rennes par exemple, et que vous venez du sud, ou alors si vous êtes dans une partie, il y a des prisons qui sont mixte, c'est-à-dire où il y a une zone réservée aux femmes, mais par exemple dans ces zones-là, les femmes n'ont pas accès aux mêmes activités que les hommes, puisque ça ne peut pas se mélanger. Donc, in fine, je pense que le traitement, mais c'est pas volontaire, on se dit pas, je crois pas que les directeurs et directrices d'institutions carcérales se disent on va moins bien traiter les femmes, mais par contre elles ont moins d'opportunités en termes, mais parce qu'elles sont moins nombreuses, donc il y a moins de choses qui sont faites pour elles, et donc c'est plus compliqué, comme dehors dans la vie, c'est plus compliqué pour une femme quand on est en prison.
Là, je suis pas sûre moi, mais c'est un autre débat, je pense.
Autre question.
Bonjour, merci à vous cinq pour votre intervention. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Anne-Cécile, comme quoi, suite à l'affaire DSK, les langues se sont déliées et de nombreuses victimes, ou du moins une quantité plus importante de victimes, ont eu le courage d'aller poser plainte. Et ça a été sans doute encore plus vrai après l'affaire Weinstein et MeToo. En ce moment, il y a des grands procès ou plutôt des grosses affaires dont on a eu des résultats. Je pense notamment à Darmanin, à Besson, qui ont bénéficié d'un non-lieu. L'affaire Norman, qui très récemment a été abandonnée, les faits ont été déconsidérés. Par ailleurs, non-lieu, c'est bien de rappeler que ça ne témoigne pas de l'innocence d'une personne, mais simplement de la non-possibilité de définir sa culpabilité. Est-ce que vous pensez que suite à tous ces résultats peu concluants de grands noms qui ont été accusés, on pourrait avoir une situation qui serait, on va dire, qui reviendrait un peu à celle qui était avant l'affaire DSK, et avec des personnes qui auront plus de mal à avoir le courage de parler.
Alors moi, je pense que rien n'est jamais gagné. Le sursaut post-affaire DSK a été très court parce qu'en fait, il n'y a pas eu de procès. Donc, il n'a pas été jugé, en fait. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens pensent qu'il a été innocenté. Il a fait tout un truc de com' à aller sur au JT, etc. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de procès, en fait. Et donc, je pense qu'il y a peut-être eu pendant l'été, on revient beaucoup dans le podcast dessus, donc je ne vais pas vous en parler trop, mais il y a eu un début d'organisation de femmes qui ont commencé à parler, pas que contre lui, mais contre le sexisme en politique globalement. Et il a suffi de... Voilà, non-lieu... Il rentre en France, il est libre en France et il est à la télé. Je pense que ça suffit à décourager pas mal de gens qui avaient peut-être commencé à avoir cet instinct-là de parler. Donc je dis pas, moi, que ça a particulièrement délié les langues. En revanche, je pense que personne ici peut nier que MeToo, donc l'affaire Weinstein à l'époque et puis tout ce qui en a découlé, on en sent encore les conséquences aujourd'hui. Et évidemment, il y a toujours des choses qui nous découragent. Mais moi, j'ai espoir que c'est une lame de fond assez conséquente, quoi. Et que, quand bien même on n'obtient pas encore gain de cause devant la justice, on arrive à identifier, juste, ne serait-ce qu'identifier des comportements qui sont répréhensibles. J'en parle dans le podcast. Moi-même, j'ai été victime de certains trucs, je ne m'en rendais pas compte. Ça avance comme ça aussi, la société, malheureusement, pour toutes ces victimes qui se retrouvent aujourd'hui avec des non-lieux sur les cas que vous avez cités. Je pense qu'en fait, voilà, il faut continuer, quoi. Mais effectivement, c'est toujours un risque.
Quelqu'un d'autre sur cette question?
Une autre question dans la salle?
Bonjour à toutes. Une question de pure curiosité, parce qu'on vous parlez beaucoup de femmes coupables, souvent en relation avec des hommes en tout cas. Est-ce que dans tous les crimes que vous avez traités, dans toutes les anecdotes, est-ce qu'il y a des femmes contre des femmes finalement ? Oui, voilà, exactement.
Ben, je sais que moi, dans celle que j'ai traitée, Inès Madani, par exemple, c'était tout ce qui a trait à la violence politique. Du coup, c'est pas...
Peut-être il faut rappeler qui est Inès Madani.
Inès Madani, qui est cette jeune femme qui avait été condamnée il y a quelques années pour une tentative d'attentat à la voiture piégée à Notre-Dame. Du coup, et donc, qui avait construit un commando. Ce qui avait beaucoup étonné, c'est à la fois qu'elle était jeune et que c'était un commando de femmes, et que c'est la première fois, en fait, que une femme avait été condamnée comme non pas comme complice, mais un petit peu comme cerveau d'un attentat dans le cadre d'un attentat djihadiste. Et Inès Madani, par exemple, je pense pas qu'elle, pour le coup, les victimes, je crois pas qu'elle s'était intéressée à la question du genre. Et de la même façon. Ginette Bach, l'enfant qui est mort, c'était une fille. Je sais pas.
Ce qui était frappant dans l'affaire Madani, c'est qu'elle se faisait passer pour un homme sur les réseaux pour attirer dans ses filets les potentiels terroristes.
Et d'ailleurs, ce que je trouve encore plus intéressant par rapport à Inès Madani, c'est qu'elle se faisait passer pour un homme sur les réseaux sociaux, donc sur les groupes Facebook, tout ça. Et en fait, pendant son procès, on a beaucoup retenu ça comme est-ce qu'elle n'était pas lesbienne, est-ce qu'elle n'était pas trans, peut-être. Enfin, c'était une question de. On a intégré ça, son identité, son orientation sexuelle, et il a fallu longtemps pour que, mais même le président du tribunal, à un moment, que quelqu'un dise, en fait, c'est simplement parce qu'elle avait plus de pouvoir, elle pouvait toucher, elle pouvait rentrer dans plus de clubs comme dans la vraie vie sur Facebook si elle se faisait passer pour un homme. Mais ça montre bien que ça, c'est pas une question qu'on pose sur ses relations avec son père quand elle était petite, c'est pas une question qu'on posait aux différents terroristes hommes qu'on a vu passer dans les différents procès.
Je pense qu'on a le temps pour une toute dernière question. Quelqu'un ? Oui.
Bonjour. Alors moi, je me pose la question, en vous entendant parler depuis tout à l'heure, sur justement la séparation entre la femme que vous êtes et la journaliste, qui justement, la frontière est poreuse et peut-être elle est inexistante, je ne sais pas à quel point. Et je me demande comment vous gérez le sentiment des fois de passivité, d'impuissance, peut-être de colère, quand vous travaillez ce matériau qui est quand même... si concernant, je pense, en tant que femme et en tant que journaliste. Voilà.
Claudia, peut-être ?
Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je me rends compte à chaque fois que j'intellectualise jamais autant ce que je fais que quand on me pose des questions dessus. La frontière, elle est poreuse. J'ai dit quelque chose tout à l'heure sur le fait que j'avais des biais de femmes. Je tiens à préciser que tous les hommes avec lesquels je travaille ont des biais d'hommes. La plupart, ça se passe très bien et voilà, il y a absolument aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaye quand même de bien avoir à l'esprit que l'histoire racontée par un homme, elle n'est pas neutre et elle n'est pas plus neutre que l'histoire racontée par moi avec les questions que je me pose moi. Et du coup, j'essaye vraiment de faire attention à ça dans le podcast et j'arrive pas à faire comme si j'étais un homme, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a pas de frontière. Mais c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas de frontière non plus pour la personne qui est en face. Voilà.
Oui, quelqu'un d'autre ? Caroline ?
Alors, je suis assez d'accord avec toi. J'intellectualise pas autant. Mais pour vous donner un exemple concret, il y a 10 ans, j'ai suivi un procès d'assises sur un prof de tennis qui avait violé toutes ces joueuses qui étaient adolescentes ou petites même. Et en fait, donc voilà, elles avaient eu le courage de parler. Et donc, j'ai suivi le procès. Et il est très difficile de ne pas se projeter. Et on est beaucoup, à un moment donné, à être sortis de la salle. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus, en effet, à emmagasiner. Et on se projette parce que... Bah, moi, je faisais du sport quand j'étais petite... voilà, parce que quand j'entendais parler de ces femmes, ça aurait pu être moi, parce que voilà. Et c'est vrai que parfois c'est très difficile de mettre une frontière et de garder la tête froide. Il faut quand même savoir mettre une barrière. Mais c'est vrai que peut-être le fait d'être une femme, ça ajoute une petite complication, je trouve.
Et alors moi, à la différence de vous trois, moi aussi, les affaires dont je traite, je ne suis à aucun moment en contact avec des personnes que ça a touchées. Donc c'est complètement différent. Il n'y a pas du tout d'implication émotionnelle de ma part dans les affaires que je traite dans Crime Story. Par ailleurs, je fais du documentaire radio sur des sujets qui sont beaucoup moins criminels et ça me touche beaucoup plus. Donc il y a quand même aussi ça qui est important. C'est pas du tout la même chose de parler à quelqu'un qui a été confronté à quelque chose et de lire les journaux et d'essayer de faire une synthèse claire ce qu'est ce que je fais dans le cadre de Crime Story.
Anne-Cécile Jean.
Nous, l'envie de faire ce podcast, donc on vient de la télévision et comme vous l'avez compris, on était journaliste de télévision, donc on retrouve nos images de l'époque, etc. Le principe, c'est qu'on, en tant que journaliste de news, donc d'actualité, c'est qu'on nous demandait d'être effacés entièrement. On n'a pas à donner notre avis. Enfin, et vraiment, l'envie de faire ce podcast est née de 10 ans de conversations, de regrets, de trucs, de mal-être. Il y a des choses qu'on a fait, on comprend pas vraiment. Enfin. Donc nous, chez Emonu, c'est vraiment tout l'inverse. C'est plus du tout du journalisme. On a fait de l'enquête et on a des nouvelles personnes qu'on interviewe, etc. Mais là, maintenant, on est 100% qui on est, nous, et nos émotions. Et ça, j'irais même jusqu'à dire que faire ce podcast nous fait du bien à nous en tant que personnes. C'est pas juste du contenu qu'on produit pour les auditeurs. On espère en avoir plein et on va bientôt le lancer. Mais honnêtement, c'est vraiment une sorte de réalignement des chakras, quoi, après avoir été dans le job des journalistes un peu trop longtemps.
Voilà. Le podcast comme thérapie. Donc, Juliette Proto, tout dernier mot ou non ? Non.
Non.
Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé et merci à vous quatre.